Bonjour et nous revoici sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre avec un tout petit peu de retard, mais je pense qu'on peut aller un peu au-delà de 16h, Sidi va me dire s'il y a une émission après, je ne sais pas, il est parti, je ne sais où. Donc je vais commencer par un petit rappel d'événements qui vont paraître déjà très 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 lointains, puisqu'il y a de ça 3 semaines. Oui, dis-moi, on a jusqu'à 16h ou on peut un peu tirer au-delà? Ça va, ok. Voilà, donc c'est confirmé, on pourra faire notre heure. Donc il y a de ça quelques semaines, la dernière apparition sur les tréteaux du comédien Emmanuel Macron s'est faite autour de la question de la célébration de la fin de la Première Guerre mondiale. Ce qui n'était d'ailleurs pas la fin, je l'avais rappelé, puisque des combats avaient continué dans des endroits qui n'étaient pas la France ni l'Allemagne, mais ça avait continué très très sérieusement. Et donc à cette occasion, j'avais prévu de vous faire écouter ce que je vais faire aujourd'hui, un extrait d'un poème qui a été rédigé pendant cette Première Guerre mondiale et qui va servir d'introduction à toute une réflexion sur les rapports entre les citoyens et l'État. Écoutez d'abord. Ça s'appelle « Propos d'un conscrit ».
Rentrez-vous à présent dans la glèbe féconde, où grâce à vous, du bon.
C'est à toi que je parle. À toi, conscrit. Mon enfant par l'âge et par la tâche quotidienne, mon frère. Puisque l'heure va sonner pour toi de payer à la société bourgeoise l'impôt du sang, qu'elle ne t'épargne pas plus que les autres impôts. L'heure où toi, fils d'ouvrier, ouvrier toi-même, prolétaire d'hier et prolétaire de demain, tu vas endosser la livrée du soldat en échange de ton vêtement d'homme libre et de citoyen. Puisque tu vas quitter l'atelier, l'usine, le chantier, le théâtre de ton labeur quotidien, ce milieu où tu vivais encore avec un peu d'indépendance dans l'allégresse de ton printemps, puisque ta conscience t'appartient encore, fais comparaître devant elle ceux qui demain te parleront en maître et se feront tes geôliers. Tes parents sont des lâches. Ils défèrent aux mensonges de la patrie et permettent sans horreur que tu t'en ailles sous les drapeaux. Dans cet enfer de la caserne, dans cette école du crime, tu vas devenir une machine à donner la mort. Avec ton harnais de guerre, ton fusil, ta baïonnette, par le sabre et par le revolver, tu imposeras aux malheureux, tes frères, l'autorité malfaisante des riches et des ventrus. Toi qui ne possèdes pas un lopin de terre, pas une pièce d'or, tu te feras le gardien de la propriété. Hélas, tes 20 ans rendront paisible le sommeil des parvenus sexagénaire. À moins que ton sang n'aille dans les pays équatoriaux engraisser le territoire enlevé par violence aux peuples indigènes, pour l'accroissement des larrons, prêtres, soudards ou financiers.
Laurent Taillade, Lettre au conscrit, 1909.
Voilà, ça s'appliquait évidemment, voilà cette lettre très poignante qu'on pourrait qualifier simplement de pacifiste, s'appliquait évidemment dès le début de la guerre de 14, et puis elle continue à s'appliquer d'autant plus que les années passaient et que la boucherie s'éternisait. On se souvient que dès l'installation à Verdun, on sait qu'on ne bougera plus, les lignes ne bougeront plus, et qu'il faudra du sang et du sang et du sang et du sang jusqu'à une date indéterminée pour que finalement les chefs décident d'arrêter. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de cette Première Guerre mondiale. Et donc c'était bien de le rappeler, et puis ça rappelle quelques phrases qui sont restées célèbres et qui ont été réévoquées, heureusement, à l'occasion des cérémonies donc, de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. La phrase de Jaurès, extrêmement célèbre, donc, qui dit « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée l'orage ». Et puis l'autre phrase, qui est celle d'Anatole France, « Vous croyez mourir pour la patrie, vous êtes mort pour les banques ». Voilà, c'est où je la déforme un peu, mais en fait, c'est ce que veut dire Anatole France et qu'on retrouve donc dans le texte de Taillandier. Ces propos ne sont pas si lointains qu'ils en ont l'air de notre réalité quotidienne aujourd'hui dans la République française. Car les événements auxquels nous assistons laissent à réfléchir, je vais le faire devant vous, sur les rapports entre le peuple, pour faire simple, après on pourra discuter du contenu du terme, et le pouvoir. Ces rapports sont basés sur une sorte de ce que Jean-Jacques Rousseau a appelé, alors qu'il a écrit ça il y a quelques siècles, le contrat social, c'est-à-dire que, en fait, les citoyens d'une république acceptent un certain nombre de décisions et de politiques de cette république jusqu'à une certaine limite. Et c'est là que se joue la question de la rupture du contrat social, rupture dans laquelle nous nous trouvons installés. Alors une rupture qui n'est pas consommée à l'heure où je vous parle, qui peut être consommée un peu plus tard, il n'y a pas de prévision à faire. On sait que la question du contenu du contrat social est, comme ils disent d'habitude, mais en gardant ça pour eux, sur la table, et non seulement sur la table, mais dans les rues, dans les stations-service, dans les supermarchés. Ici et là, la question du contenu du contrat social est sur la table. Et ça me ramène à la Première Guerre mondiale. Alors, des Thaïlandais et d'autres, de 1909 ou dès 14, disent « Pourquoi on va aller se battre ?» Et finalement, ils vont tous y aller, enfin presque tous, sauf une toute petite minorité, ils vont tous y aller parce que les partis politiques qui guident la classe ouvrière, pour faire simple, de l'époque, donc les partis de la Seconde Internationale, vont dire très très vite, alors qu'ils avaient dit le contraire pendant des années, « On y va !» Et donc aussi bien les socialistes français, à l'exception de Jaurès, mais qui a été assassiné précisément parce qu'il ne tenait pas cette position, et les socialistes allemands vont finalement capituler et vont dire « on y va ». Donc les socialistes, donc, qui sont à l'époque les porte-parole de la classe ouvrière, trahissent la classe ouvrière, disant « va au charbon, va au massacre, tu vas saigner, et moi je ne sais pas ce que je deviendrai, enfin on sait ce qu'ils deviendront après ». C'est ça qui se passe. Et donc là, il y a rupture. Alors là, la rupture ne se fait pas tout de suite parce que ceux qui considèrent qu'ils ont été trahis par l'international socialiste de l'époque, les socialistes français ou les socialistes allemands, vont s'apercevoir qu'ils avaient raison d'être en désaccord avec la position de ces dirigeants socialistes au fil de la guerre. Alors bien entendu, ce n'est pas dans les premiers mois, août 14, septembre 14, la bataille de la Marne, ce n'est pas encore très compréhensible. Ça va devenir compréhensible dans les tranchées, dans cette guerre d'usure qui n'en finit pas, qui est horrible, qui met en jeu toutes les inventions, tous les progrès de la technique industrielle contemporaine, donc je veux dire les premiers avions, les gaz, etc. Tout ça, donc toute l'horreur de la machinerie industrielle utilisée dans les opérations guerrières. Et puis, au prix de quantité de morts des deux côtés, et puis, au fil du temps, le consensus ou ce contrat social va se briser. C'est-à-dire que tous ceux qui sont envoyés dans des conditions épouvantables, je pense au chemin des dames en 1917, sachant qu'on les envoie monter à l'assaut d'une colline dont le sommet est tenu par l'armée du Reich avec des protections donc, et des canons, des fusils mitrailleurs et tout. Donc ils sont uniquement de la chair à canon, ils vont monter par vagues successives et pratiquement tous y rester. À ce moment-là, on a rupture de facto reconnue du contrat social. C'est-à-dire que ces citoyens français qui sont venus là, parce que, comme le dit la chanson de Taillandier ou le poème, leurs parents disaient d'y aller, puis on considérait que c'était bien, ils considèrent que ça suffit. Ça suffit. Et donc, vous savez qu'à ce moment-là, la riposte de la classe dirigeante va être sauvage, puisque ce sera passer par les armes, faire des fusillés pour l'exemple, etc. Avec, en particulier dans les fusilleurs, un certain général Pétain, qui devient maréchal plus tard et qui devient ensuite la chef de l'État. Tout ça donc explique ce que c'est que la rupture du contrat social ou la rupture du consensus républicain. Alors quand on dit contrat, c'est dans l'esprit de Rousseau, c'est-à-dire que ce n'est pas un papier que chacun signe, mais c'est une espèce d'acceptation, ce qu'on appellerait, les juristes appellent ça un contrat d'adhésion, vous propose un contrat, vous le regardez, ça vous va, et puis vous dites « ok, c'est d'accord ». Bon, alors le contrat social, le fait d'accepter et de respecter une république qui vous a vu naître, qui vous a emmené à l'école, qui vous a payé l'école, qui a entretenu les villes, qui a fait fonctionner des tribunaux, qui a fait fonctionner des administrations, qui a garanti votre sécurité quotidienne avec des corps de police. Ça sert à ça, la police, sécurité. sécurité quotidienne, qui a donc été une république qui fonctionne pour le bien de tous. Et ça, vous l'avez accepté. Donc, dans ce bain à la fois de cette langue, de cette école, de cette culture, de ces institutions qui vont, et c'est bien avoir un code du travail, un code de la sécurité sociale, toute une série de choses auxquelles vous vous habituez. Alors, il n'y a pas un jour où chaque citoyen dit « Ok, ça, ça me va ». Mais au fil des temps, et vous arrivez à l'âge de voter, à 18 ans, en disant ben, « Au total, si je fais mes comptes, ça vaut le coup ». Ça vaut le coup, c'est un contrat qui est honoré par l'autre partie. Ceux qui m'ont proposé de vivre dans cette République avec ses institutions, ses lois, ses codes, ceux-là, j'accepte de rester avec eux. Et puis, il y a un moment... Moment dans lequel alors, se sont trouvés les mutinés de 1917 et moment dans lequel une bonne partie de la population française se trouve au moment où je vous parle, avec des perspectives que la population tracera elle-même, ce n'est pas à moi de le faire. Ce moment-là est un moment où il y a rupture du consensus, c'est-à-dire que ceux qui subissent, qui ont accepté cette République, ces institutions, ces codes et tout, disent... Le jeu est truqué. C'est-à-dire que ceux qui gouvernent ne nous donnent pas ce à quoi nous aspirons, ce à quoi notre travail contribue, c'est-à-dire, et c'est là qu'on en revient, on revient directement à la question fiscale, qui est une unité de mesure de ce consensus, de ce contrat social, puisque la mesure fiscale consiste à dire, je crois qu'il y a un problème de son, non ? J'ai plus d'écho. Tu m'entends ? J'ai plus de retour. Si, ça va, voilà. Oui, donc il y a la fiscalité, les impôts sont une mesure de l'équilibre dans le contrat. C'est-à-dire, vous allez accepter en tant que citoyen de payer certains impôts et vous allez en face avoir la République qui vous offre un certain nombre de services. Des écoles qui sont en état de fonctionnement, des immeubles qui ne s'écroulent pas comme à Marseille, des services, des tribunaux où il y a des magistrats qui ont le temps de traiter les dossiers. Enfin, toute une série d'institutions qui fait que vous considérez que le contrat est correct, c'est-à-dire vous donnez et vous recevez. Et puis vient un moment dans lequel la République française se trouve, et je ne veux pas être grandiloquent du tout, mais c'est exactement ça, il y a un moment où vous vous dites, mais au fond, moi, on me demande de donner, et en fait, j'ai de moins en moins de prestations en face. C'est-à-dire que la République s'appauvrit apparemment, les hôpitaux ferment, les maternités ferment, les bureaux de poste ferment, l'école se dégrade, il y a de moins en moins de professeurs, etc., etc. Enfin, je ne vous fais pas le tableau, il est connu très très largement. Et finalement, il y a rupture du contrat de la part de ceux d'en haut, c'est-à-dire qu'ils continuent à... exiger ma soumission et mon consentement. Alors, c'est vraiment parce que les fonctionnaires du ministère des Finances appellent ça le consentement fiscal. Et ça a un sens très, 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 très clair. Ça veut dire j'accepte de payer des impôts dès l'instant où ce n'est pas du vol. C'est dès l'instant où je vais pouvoir avoir un retour sur mes dons, sur ma contribution. Dès l'instant où il n'y a plus rien. Bon, ça ne va pas du tout. Et ça va d'autant moins que non seulement il n'y a plus rien pour la grande majorité, je veux dire les hôpitaux qui ferment ou dans la qualité se dégrade, le manque d'infirmières. Enfin, je ne vous fais pas un tableau, il a été fait et refait des quantités de fois. Mais dès l'instant donc, où il n'y a plus en face ces prestations que la République doit fournir et auxquelles elle s'était engagée à fournir, vous apercevez que d'autres qui payent très très peu par rapport à leur capacité contributive, eux continuent à avoir d'énormes avantages. Ils en ont même de plus en plus. Et c'est ça la rupture du consensus républicain ou du contrat social. C'est-à-dire qu'au fond, la République sert à prendre de l'argent en bas pour distribuer zéro avantage en bas ou de moins en moins d'avantages et à donner de plus en plus d'avantages à ceux d'en haut. Et donc la cassure est très très nette. Elle se manifeste aujourd'hui avec des gilets jaunes. Elle peut se manifester de quantité d'autres façons. Il y a eu ces derniers temps des manifestations d'infirmières, il y en aura d'autres sous tous les corps de métier, des manifestations d'avocats, etc. On a donc une mobilisation de tous les secteurs d'activité qui considèrent qu'on leur demande beaucoup et qu'on ne leur donne plus rien. Donc la République est devenue une mauvaise mère. Elle ne privilégie, elle donne de l'argent aux riches et elle ne donne plus grand-chose ou de moins en moins, et on la voit continuer sur cette pente, à ceux qui contribuent par leur travail, par leurs impôts. Alors quelquefois, il y en a qui travaillent travaillent et qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils sont très très peu payés, mais c'est l'un ou l'autre ou les deux à la fois. Et puis en face, la République est une mauvaise mère, est devenue une mauvaise mère. C'est cette République-là qui est sur la sellette et qui l'est depuis quelques semaines, qui va le rester, parce qu'effectivement, tout ce que je vous dis s'est accumulé depuis des décennies et s'est simplement accentué depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Alors là, on a un cas très intéressant, parce qu'au fond, déjà, le contexte de cet abandon du consensus républicain était déjà posé par les mesures prises par les deux présidences précédentes. Et puis là, on a affaire à un personnage qui arrive en prenant des décisions et en faisant voter par un Parlement croupion des décisions qui vont toutes dans ce sens. Je vais encore diminuer, si c'était possible, les prestations que la République donne à la majorité ou à la grande majorité des citoyens. Et ça donne les ordonnances, la destruction du code du travail, la destruction en cours du code du système de la sécurité sociale, la destruction ou l'affaiblissement de la profession d'avocat, le manque de magistrats dans les tribunaux, tout ça, toute une série de décisions. C'est-à-dire qu'un espèce d'acharnement qui dure depuis donc un an et demi maintenant pour détruire tout ce qu'il était possible encore de détruire, y compris en y ajoutant, on l'a suffisamment dit et on ne le rappelle plus en ce moment, mais c'est bon de le dire, des destructions qui n'étaient pas affichées dans le programme, par exemple celle de la destruction du statut des cheminots. Ça, ce n'était pas affiché, Macron ne l'avait jamais dit. Mais dans sa folie, dans sa rage de la destruction, il fallait qu'il fasse un exemple en disant « Regardez, le bastion, l'endroit le plus difficile à casser, je l'ai cassé moi ». La suite des événements dira s'il a vraiment cassé. Il a changé les règles du jeu, mais il n'a pas détruit les cheminots pour autant. Bon, on verra. Mais cette folie destructrice ne pouvait qu'amener à la constatation aujourd'hui massive, quel que soit le nombre de gilets jaunes qu'il y a dans la rue ou d'autres manifestants, à la constatation massive que la République trahit, c'est-à-dire que la République, ceux qui la dirigent à l'heure actuelle, ne font plus ce qu'ils ne respectent plus la majorité des citoyens et sont aux mains, travaillent pour une petite coterie qui se remplit les poches. Y compris à l'excès, je pense à Ghosne, mais il y en a beaucoup d'autres, puisqu'il y a beaucoup de ministres d'aujourd'hui qui ont été dans des entreprises privées ou gagné énormément, énormément d'argent, qui retourneront dans le privé quand ils auront quitté ce gouvernement pour recommencer à gagner encore plus d'argent, parce qu'ils vont considérer que le salaire de ministre est un salaire de misère, comparativement, et donc ils n'auront aucune hâte, c'est de se servir de leur poste et des responsabilités et des carnets d'adresses qu'ils auront accumulés à leur poste ministériel pour être encore plus cher sur le marché du grand capital. Bon, ça, c'est tout à fait clair. Et c'est ça qui ne tient plus. C'est ça qui ne tient plus. Et là où je voulais en arriver, c'est une réflexion qui s'adresse, si jamais il écoute, mais rien n'est moins sûr, qui s'adresse à celui qui a décidé de mettre le feu, c'est-à-dire de tout casser. De tout casser en disant « je ne respecte rien, je ne respecte personne, à part ceux qui m'ont mis au pouvoir, et on sait à peu près qui c'est ». Et c'est un avertissement parce que, et on va le concrétiser, vous voyez, par une séquence musicale très illustrative que vous allez écouter tout à l'heure. C'est un avertissement parce que, à force de tout casser, il a cassé dans tout, dans le secteur donc de la justice, dans le secteur de l'éducation, on casse le bac, on réforme l'entrée dans les... Enfin, je ne fais pas la liste, c'est presque un martyrologue constant de semaine en semaine depuis ce funeste mois de mai 2017. Et donc, ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il n'a pas vu et ce qu'il est en train de découvrir maintenant, c'est qu'à mettre à bas toutes les institutions et tous les systèmes donc, d'organisation de la vie collective et de prestation de services de la République à ses citoyens et à ses habitants, quand tout se met à être cassé, le flot qui est mis en avant, le flot de destruction, peut tout emporter, y compris, et c'est là que peut-être il va falloir qu'il ouvre les yeux, mais je pense que c'est un peu tard maintenant, y compris les institutions dont il se sert abusivement. C'est-à-dire qu'au fond, la constitution de la Ve République pourrait aussi bien passer à la trappe, mais ça ne serait pas lui qui déciderait, parce que pour l'instant, il en est le plus grand bénéficiaire, lui et ses députés Godillot. Mais c'est dans le mouvement de destruction du cadre institutionnel, rien ne va rester ou rien ne peut rester, et y compris pas le système institutionnel, l'organisation de l'État, qui lui a permis cet abus de pouvoir. Alors je dis abus de pouvoir parce que, bien entendu, l'élection a été régulière, on n'a pas dit qu'il y avait eu de fraude, etc. Mais il y a quand même eu une petite participation et finalement un corps électoral assez réduit portant ce personnage à la tête de la République. Et donc on en est bien là, c'est-à-dire que dans ce désordre organisé, dans cette destruction systématique de tout le système étatique, social de la France républicaine, tel qu'il avait été élaboré vague par vague au moins depuis 1945, l'institution qui reste aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, debout, c'est la Constitution et le système donc, du pouvoir du président de la République avec l'organisation de cette République présidentielle, etc. Mais ça risque de disparaître aussi dans le flot des transformations. Alors, ce n'est pas une qu'il avait prévue, mais à casser toutes les digues, il risque, parce que nous, on ne risque rien, mais il risque, lui, de voir la digue qui le protège sauter avec. C'est ça que les prochaines semaines vont nous dire. Et pour illustrer ce propos, on va écouter un extrait. Alors on part pas tout à fait au début de la musique, qui est une musique lente, mais donc c'est une musique que vous connaissez, qui a fait l'objet alors d'un traitement particulier par Walt Disney dans un film très ancien qui date des années 45-50 qui s'appelle Fantasia. Et cette musique, c'est L'apprenti sorcier. On écoute. Voilà, alors ça poursuit comme ça. Alors la métaphore, la parabole plutôt que Walt Disney a fait à partir de ce morceau en le raccourcissant, c'est qu'il s'agit d'un apprenti sorcier. C'est donc Mickey qui se déguise en apprenti sorcier, c'est-à-dire il est l'employé d'un sorcier qui lui donne des pouvoirs. Et pour ces pouvoirs, il utilise un balai qu'il va transformer en porteur d'eau. en disant comme ça, je fais rien, c'est lui qui fait le travail. Mais le problème, c'est que c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Et le porteur d'eau, ce balai porteur d'eau, se subdivise, alimente de plus en plus d'eau, il jette de l'eau partout, et l'apprenti va se trouver noyé par le balai, par les seaux portés par le balai. Et donc, il ne sera sauvé que par le grand sorcier qui, à la fin, viendra lui enlever ses pouvoirs de petit sorcier en disant « tu as fait n'importe quoi, tu as fait un gâchis épouvantable ». On est dans une situation qui n'est pas loin de ressembler à la situation d'Emmanuel Macron. Petit sorcier qui casse tout, qui est débordé par les événements, la preuve, et qui peut-être va être licencié par le grand sorcier qui l'a mis au pouvoir. Le grand sorcier s'appelle Rothschild, Lazare, BNP, Paribas, etc., le FMI, tout ça, c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Et donc ils vont se dire, le petit sorcier travaille mal, hein, on va en trouver un autre. Bon. Mais ça dépendra effectivement de la capacité des citoyens de la République française de dire, mais on ne veut plus de ce système-là, on ne veut plus d'un système présidentiel, on ne veut plus d'un monsieur qui est en plus très très inquiétant dans son comportement, qui est capable de lancer des bombes atomiques et qui est capable de déclencher une riposte du même type. C'est-à-dire qu'imaginons qu'un jour d'excès d'humeur, M. Emmanuel Macron décide de lancer une bombe atomique sur je ne sais pas qui, il aurait une riposte. Qui mourrait ? Pas Emmanuel Macron qui serait dans son bulldozer, dans son bunker sous l'Élysée. Ce serait vous, moi, tout le monde, etc. C'est ça qu'il faut arrêter. Donc cette 5e République est en train de mourir devant nous. Il faut créer autre chose avec d'autres rapports, un régime moins présidentiel, un régime plus républicain, avec des élus qui se font respecter, qui réfléchissent, qui ont le temps de réfléchir, à qui on n'impose pas des choix. C'est ça qui se joue alors à travers les péripéties d'un jour après l'autre, qui sont variables. L'affaire n'est pas jouée, elle n'est pas définitivement jouée, mais je pense que le régime présidentiel mené par cet apprenti sorcier est d'ores et déjà condamné. Il faudra travailler autrement dans une autre république qui respecte la majorité des gens qui y travaillent et qui la font tourner au jour le jour. Et ces gens-là, ce ne sont pas, contrairement à l'espèce de palinodie qu'on nous a joué hier, ce sont pas uniquement les CRS, ce sont pas les CRS qui font marcher dans la République. Même si on leur accorde une grosse prime parce qu'ils font des heures supplémentaires, mais je veux dire, d'autres font des heures pas supplémentaires et pas payées le long des routes, c'est pas ça qui va sauver la République. Hein. Qu'il y ait des corps de police pour protéger vous et moi d'un voyou, de chapardage, bien entendu, mais c'est pas ça qui se passe. C'est une République qui est condamnée, qui essaye de se survivre par la violence. Et bien entendu, alors elle va donner des primes. Tiens d'ailleurs, question, avec où on va prendre l'argent pour les primes au CRS ? Eh bien sur un autre budget, sur celui de l'éducation nationale, sur celui de la justice, enfin, vous avez le choix, on sait comment ça fonctionne. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc je dramatise pas, je dis pas courez dans les rues, mettez un gilet jaune et tout, je dis de toute façon, cette République sous cette forme-là et ce personnage qui a voulu rompre le contrat, hein, je dis rompre le contrat, c'est-à-dire ne pas respecter la République dont il est le président, ce personnage est condamné à terme, on verra, à suivre, j'en reparlerai. Et pour évoquer ce dernier épisode donc des primes d'heures supplémentaires offertes hier au CRS à l'Élysée, on va finir par une toute petite évocation musicale que je vous expliquerai. C'est extrait là d'un autre opéra moins connu qui s'appelle « Ô Richard, ô mon roi ». Mais on ne l'a pas sélectionné peut-être. Oh, tu vas prendre la première qui passe sur YouTube, « Ô Richard, ô mon roi ». Voilà, alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ça rappelle un événement qui s'est passé en 1789. Alors en 1789, qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez, il y a le 14 juillet et tout. Et le 1er octobre 1789, les gardes du corps, il y a une garde, donc c'est une garde du roi, qui appartient au régiment de Flandre, et qui est à la cour à Versailles, puisque vous savez qu'en 1er octobre 89, Louis XVI et la cour sont encore à Versailles. Et à cette occasion, les gardes du corps, donc, qui tiennent une grande fête dans le palais royal de Versailles, entonnent l'air « Ô Richard, ô mon roi ». C'est tiré d'un opéra de Grétry qui s'appelle « Richard, cœur de lion au milieu des vivats ». Et donc, le souverain, donc Louis XVI et Marie-Antoinette, qui sont très émus par ce qu'ils considèrent comme une manifestation de sympathie, hein, « Oh Richard, oh mon roi », là ça veut dire « Oh Louis XVI, oh mon roi », qui étaient un peu en retrait, viennent descendre dans la foule au milieu donc, des gardes du corps, on dirait des CRS aujourd'hui, pour dire « Ah, c'est gentil d'être avec nous ». Et donc, ils sont tellement contents, enfin, ces gardes du corps, donc ces CRS de l'époque, sont tellement contents de la venue du roi et de la reine, qu'ils ont bu un peu avant et ils se mettent à fouler donc, les cocardes tricolores que la République nouvelle, enfin, que le régime nouveau leur avait donné après le 14 juillet 1789. Ils remettent les cocardes blanches pour dire finalement, le roi nous a achetés, hein, on retombe du côté du roi, on a eu un moment de flottement entre 14 juillet et 1er octobre, mais ça y est, c'est passé, vive le roi, au Richard, mon roi. Bon. C'est ça qui s'est joué, d'une certaine façon, à l'Élysée à nouveau hier, avec la prime au CRS. Hein, on va essayer de les remettre dans le camp. Parce que rien ne dit, et d'ailleurs on avait des signes qui allaient dans ce sens, qu'il n'y ait pas dans les CRS un certain nombre de salariés CRS qui disent « Mais quel travail on nous fait faire ? Et qu'est-ce qu'on défend ? Est-ce qu'on défend les banques ou est-ce qu'on défend la République ?» Et de plus en plus, ils peuvent se rendre compte, s'ils réfléchissent un peu, qu'ils défendent les banques, mais qu'ils ne défendent pas la République. Voilà, donc ça a une réaction. Alors, on n'est pas en 89, mais cette journée du 1er octobre 1789 a eu une suite. C'est-à-dire qu'à la suite de cette trahison, les gardes du corps du roi qui étaient là donc repassent du côté de la royauté contre la Révolution. Mais ce que le peuple de Paris comprend, c'est qu'il risque d'être trahi dans sa volonté de transformation. Et donc c'est à ce moment-là qu'il décide d'aller chercher le roi à Versailles. Donc maintenant, tu viens à Paris et on te surveille. Alors aujourd'hui, le roi est à Paris. Il est protégé encore par plusieurs épaisseurs de CRS, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et donc on a des événements qui ont un écho l'un avec l'autre. C'est pour ça que je voulais vous faire entendre quelques musiques de « Ô Richard, ô mon roi ». Pas écouter plus, mais ô Richard, ô mon roi, l'univers t'abandonne. Alors on pourrait dire ô Emmanuel, mon président, la France t'abandonne. C'est exactement la même situation. Hein. Donc vous pourrez écouter, mettez ô Richard, ô mon roi sur votre moteur de recherche, vous trouverez des extraits avec différents genres. Alors quelquefois, il y en a qui sont plus explicites, qui ont une meilleure diction que d'autres, mais on est tout à fait dans cette situation-là où effectivement un régime est en train de tomber. Voilà, on en reparlera évidemment sur ces ondes. Et puis, d'autres actualités internationales pour en parler. Alors, vous avez su que le G20 s'était tenu à Buenos Aires sous escorte, sous protection militaire extrêmement avancée, puisqu'il y avait là donc les représentants des 20 premières puissances économiques mondiales, plus quelques comparses, genre Madame Lagarde et son FMI et quelques autres. Et ce qu'il en ressort, c'est d'une part que le système du G20 est un système vieillissant qui ne fonctionne plus tellement bien, puisqu'il y a une difficulté à trouver les termes d'un communiqué commun, comme il y avait eu le même cas à la réunion de l'APEC il y a quelques semaines. Et puis, il y a eu des réunions parallèles. Enfin, on sent bien que le G20 tourne à vide. Alors, c'est pas très très grave dans la mesure où le G20, j'allais dire, c'est une création très artificielle qui n'a pas de statut. Ça a été un accord, alors je rappelle, le G20 est une excroissance du G7, lui-même devenu G8 quand la Russie est rentrée, redevenu G7 quand la Russie a été mise à la porte, et il a été considéré par les grandes puissances, le G7, enfin les grandes puissances occidentales, les grandes puissances dominantes, qu'il serait bien d'associer un certain nombre de pays relativement puissants aujourd'hui, ou riches, si ce n'est puissants, pour faire avancer les affaires du monde. Mais au fond, il n'y a aucun statut, aucune règle, aucune majorité, aucun système de vote, c'est-à-dire on se voit, on se parle, on échange des propos amènes ou désagréables, on règle quelques comptes, mais au fond, le G20 n'a aucun pouvoir. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'a que le pouvoir que ceux qui y assistent lui accordent. C'est-à-dire aussi bien, ils vont considérer que ça n'en a pas. Et là-dessus, dans ce genre de situation, on peut tout à fait faire confiance à Donald Trump, qui de toute façon ne s'engage à rien et même ne respecte pas les accords écrits. Donc là, comme le G20, ça n'existe pas, que sur le papier, c'est une réunion de chefs qui ont décidé de se rencontrer pour se voir. Alors ils se voient déjà de plus en plus, et trop peut-être. Peut-être, je pense qu'il y a une espèce de fatigue des chefs d'État à cause du décalage horaire forcené auquel ils se soumettent, et finalement ça n'avance pas. Alors la seule chose qui a paru se passer, c'est qu'il y a eu donc une réunion particulière à l'occasion de cette visite donc de tous ces chefs d'État du G20 à Buenos Aires, une réunion particulière entre la délégation chinoise présidée par le président chinois lui-même et la délégation des États-Unis présidée par Trump. Et il en est ressorti quelque chose qui, dans l'immédiat, alors ça durera ce que ça durera, est une trêve dans la guerre commerciale, c'est-à-dire que Trump, qui était arrivé les poings tout faits pour dire on va encore augmenter les droits de douane contre les produits chinois, est sorti de cette réunion en disant on va encore rester au niveau des droits de douane où on est jusqu'à aujourd'hui pour 90 jours. Donc on a encore 3 mois de négociations, et ça veut dire qu'au fond, il n'était peut-être pas très sûr de sa position et que la négociation peut continuer, même si elle est difficile, avec la République populaire de Chine. Et à cette occasion, on a pu voir des extraits de cette réunion de travail entre les deux délégations importantes. C'est une vingtaine de personnes de chaque côté de la table, où on voit, ce qui est fort rare, le président chinois éclater de rire alors que Donald Trump est de glace, ce qui veut dire que peut-être ça ne s'est pas passé tout à fait comme il l'espérait. Mais à part ça, le G20, ce n'est pas très intéressant. C'est pas... Alors on a vu qu'il y avait le prince saoudien qui était là, etc. Alors à ce propos, quelques mots sur le prince saoudien qui était là, puisqu'on est dans la situation rocambolesque, si j'ose dire, que MBS, donc Bin Salman, est considéré par la CIA elle-même dans un document écrit officiel comme l'organisateur de l'assassinat du journaliste Khashoggi, alors que Trump passe son temps à dire que « Oh, c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui, mais c'est pas grave, on fait comme si on savait pas, comme si on voulait pas savoir », parce qu'il y a derrière probablement encore de gros contrats d'armement. Et c'est ça qui, pour Trump, est l'essentiel, faire tourner les usines d'armement, puisque c'est une des spécialités encore les plus remarquables de l'industrie des États-Unis. À propos d'armement, d'ailleurs, il faut souvenir, parce que j'ai réussi à trouver sur des sites d'appels d'offres ou de recherche d'emploi aux États-Unis des recrutements par l'armée saoudienne de techniciens américains, alors soit des militaires à la retraite, soit des gens qui ont travaillé dans des usines d'armement ou d'autres qui ont une formation ad hoc. Et donc, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque fois qu'un yéménite est tué, il y a quelque part devant un pupitre de commande ou dans un lieu où on donne des conseils aux militaires saoudiens qui utilisent ces armes, des Américains embauchés sous contrat pour effectivement continuer l'œuvre de mort organisée par leur république. Et voilà, c'est ça qui est important à savoir, parce qu'on dit « Ah, c'est les yéménites, c'est les saoudiens ». Non, non, en fait, sans la technologie, sans les cerveaux, sans les techniciens recrutés aux États-Unis, et je vous dis, on peut trouver les offres d'emploi directement sur Internet, il n'y aurait plus de guerre au Yémen. Ce qui la rend possible, parce que vous pouvez donner l'armement le plus sophistiqué à la première armée que vous trouvez, mais si vous n'avez personne pour les faire fonctionner, il s'agit d'armement compliqué aujourd'hui, de très haut niveau de technologie. Et s'il n'y a pas ces mercenaires américains, appelons-les pour faire simple, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, il faut savoir, il faut dire, il faut redire que tout mort yéménite est un mort tué avec l'aide, même avec la complicité d'Américains qui sont sur place. Alors, sur place, quelque part dans un bunker, quelque part dans un avion qui est au-dessus, quelque part sur un pupitre avec un joystick dans le Nevada, toutes les techniques sont possibles avec nos systèmes de communication actuels, mais de toute façon, sans l'intervention physique de spécialistes des États-Unis, l'armement américain ne sert à rien. Donc il faut vendre ce que Trump fait, vendre de la quincaillerie, ça ne suffit pas et l'hypocrisie est totale, c'est-à-dire que sans les techniciens américains, sans les forces spéciales, sans les conseillers, sans tout ce qu'il y a derrière, l'armée saoudienne est tout à fait nulle. Et donc elle ne pourrait pas faire de mal. Le mal, il est fait par cette conjonction de matériel américain et de forces de réflexion et de forces de formation et de forces intellectuelles américaines. Il ne faut jamais oublier de le dire. À propos donc de, je regarde un petit peu l'heure, de nouvelles internationales, il a été beaucoup question, enfin, il a dit à l'occasion du sommet du G20, il y aura, donc il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas eu de rendez-vous officiel entre la délégation russe et la délégation des États-Unis, mais on a quand même beaucoup parlé de la Russie, et la Russie était présente, bien entendu, via son président, à propos de l'affaire de Kertch, le fameux détroit de Kertch. Alors, l'affaire est en train de prendre moins d'ampleur, puisque au début, on a dit, c'est une future guerre dans la mer d'Azov. Et puis, au fond, le président ukrainien qui a lancé l'opération extrêmement délicate et dangereuse d'envoyer deux petits vaisseaux de guerre à travers les eaux territoriales de la Russie savait très bien ce qu'il faisait. Alors, il faisait une chose toute simple, c'est-à-dire que M. Porochenko, actuel président de l'Ukraine, qui est soumis donc à réélection au mois de mars de 2009, dans les derniers sondages d'opinion, un pourcentage de vote favorable qui est autour de 8 ou 9%. C'est-à-dire qu'il est à peu près sûr qu'il ne sera pas réélu. Et donc il a tenté une dernière opération, une opération nationaliste, guerrière, etc., pour essayer de montrer qu'il était fort et le vrai chef de l'Ukraine. Et ça s'arrêtera probablement là, parce que malgré les cris qui ont bien sûr existé aux États-Unis pour le soutenir, du côté européen, on est plutôt prudent. M. Macron ne s'est pas expliqué là-dessus, mais Mme Merkel est très prudente sur les affaires ukrainiennes. Et donc M. Porochenko a probablement là lancé son chant du cygne, dernière tentative pour faire croire qu'il est le maître d'un pays qui est en voie de décomposition, en voie d'appauvrissement, un pays qui est fui par sa population. Toute la population en âge de travailler essaye d'aller travailler ailleurs pour ne pas mourir de faim et de froid sur le sol ukrainien. Triste fin d'un régime, rappelons-le, mis en place en 2014 par l'Occident, États-Unis, Allemagne et France en tête. Il faut se souvenir que le gouvernement de M. Yanukovych, qui a été renversé à Maïdan après des mois et des mois de préparation, l'a été parce que, in fine, alors que les forces de police essayaient de calmer les manifestants qui étaient très bien installés, très soutenus, très organisés, il a fallu, pour déclencher, enfin passer à la phase finale, il a fallu que des tireurs isolés, ce qu'on appelle des snipers aujourd'hui, venant d'un bâtiment officiel, tirent dans la police officielle, pour que la police se mette à se défendre, mais c'était trop tard, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous tirez, alors c'est la technique connue, elle a déjà été utilisée dans différents endroits, vous mettez des tireurs anonymes quelque part, ils tirent dans les deux camps en présence, et donc on passe d'une, ce qui peut être une bataille de rue, d'une grosse manifestation un peu dure, à un bain de sang. Puisque le bain de sang commence au moment où les snipers tirent à la fois sur la police et sur les manifestants. Et à ce moment-là, les deux côtés se déchaînent, la police se déchaîne, les manifestants se déchaînent, surtout quand ils y étaient préparés, c'était le cas, et qu'ils étaient organisés à travers des groupes fascistes qui étaient formés et armés. Donc à partir de ce moment-là, le bain de sang est ouvert, il a lieu, et il se termine par la fuite du président Yanukovych en Russie. Président Yanukovych qui a miraculeusement échappé à un lynchage et à une mise à mort dans sa fuite vers la Russie à l'époque. Or, le président Yanukovych était un président légitimement élu, qui était en règle avec lui-même, qui n'était pas du tout un progressiste ni quoi que ce soit, mais c'était un monsieur qui respectait les règles de la République et qui avait les faveurs d'une majorité du corps électoral ukrainien. Bon, depuis, on est dans le chaos. Ça a donné donc la crise criméenne, la crise au Donbass qui continue. Mais la dernière tentative de Porochenko, donc cette opération militaire dans le détroit de Kertch, probablement fera long feu. J'ajoute d'ailleurs, parce qu'il a quand même été soutenu et encouragé dans ce genre de provocation, qu'au moment où la Russie a ouvert, alors la géographie est telle que pour aller de la Crimée aujourd'hui, donc membre de la Fédération de Russie, au reste du territoire de la Fédération de Russie, il faut passer par-dessus ce fameux détroit, il faut passer par un pont qui a été ouvert simplement au mois de juillet. Et je rappelle quand même, pour bien donner le contexte psychologique et politique, qu'au moment où ce pont a été inauguré, un pont de 18 km sur un détroit, qui relie donc deux moitiés du territoire russe, enfin deux parties plutôt que deux moitiés, puisqu'elles sont inégales, il y a eu aux États-Unis des officiels, je pense à M. Bolton et à quelques autres, qui ont dit « il faut bombarder le pont de Kerch ». C'est-à-dire qu'il était « ça ne nous plaît pas politiquement », et donc on a la réponse états-unienne classique « bombardons », qui est la réponse politique de M. Bolton et de quelques autres dans son entourage. On la connaît, hélas. Donc on en reparlera, mais je ne pense pas que l'affaire Porochenko aille beaucoup plus loin. Il sera battu, alors en espérant qu'il ne tentera pas une opération encore plus violente. Là, ce n'était pas violent, c'était une tentative de violation des règles de droit de la navigation maritime. Est-ce qu'il va tenter une opération extrêmement violente en attaquant la province, militairement les provinces sécessionnistes du Donbass? C'est un risque, à mon avis, qui ne sera pas nécessairement couru, parce que je pense qu'il ne va pas être soutenu fortement par tout le monde à l'extérieur, enfin, tous les Occidentaux qui l'ont soutenu, sauf les pousses au crime de Washington. C'est la seule hypothèse possible. Un autre pays qui touche le reste dans la région, pour vous parler un peu de la Géorgie. Alors, vous voyez, la Géorgie, donc on est toujours sur les bords de la mer Noire, mais un peu plus à l'est que la Géorgie. Vous savez que sur les bords de la mer Noire, vous avez l'Ukraine, le nord de la mer Noire, l'Ukraine, la Crimée maintenant, donc qui est la Fédération de Russie, ensuite la Fédération de Russie avant l'introduction de la Crimée, et puis quand vous allez plus à l'est, vous arrivez en Géorgie, capitale, Tbilissi, vous connaissez. Ce qui s'est passé, et ça a eu un écho, bien entendu, dans la presse française, c'est qu'il y a eu une élection donc, à la présidence de la République de Géorgie et que c'est une citoyenne d'origine française, Salomé Zourabichvili, qui a été élue présidente de la République de Géorgie. Alors, c'est une citoyenne d'origine française, je le précise, Salomé Zourabichvili, donc est la descendante d'une famille de Géorgiens qui ont quitté la Géorgie au moment de la révolution bolchévique, parce qu'ils n'étaient pas de ce camp-là, manifestement, qui a donc est venu avec sa famille, est née en France, a fait de belles études, et elle est diplomate de formation. Donc, elle a passé toute une série de concours, mais diplomate, elle est même ambassadeur, son titre, elle a été ambassadeur de France en Géorgie, et elle a même été, dans des conditions assez extraordinaires, ministre des Affaires étrangères de la République de Géorgie. Alors comment devient-on ministre des Affaires étrangères de la République de Géorgie quand on a un nom, bien sûr, qui sonne géorgien, Zourabichvili, c'est typiquement géorgien, mais qu'on n'est pas citoyen de Géorgie? Eh bien, c'est tout simple. Imaginez, Monsieur Chirac téléphone, Monsieur Chirac qui la connaît, puisqu'elle a été dans le cabinet d'Alain Juppé, elle représente la France dans des délégations à l'OTAN, etc. C'est une diplomate très connue et très politisée, j'allais dire, très, très du côté OTAN et Amérique. Monsieur Chirac téléphone au président de l'époque de la Géorgie, Monsieur Mikhail Saakachvili, et lui dit ben oui, mais elle n'est pas géorgienne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'à cela ne tienne, dit l'autre, c'est pas grave. Il réunit le Parlement qui est à sa botte. Dans le quart d'heure, Madame Zourabichvili a la nationalité géorgienne, et 10 minutes après, elle est ministre des Affaires étrangères. C'est pas beau, ça, c'est comme une bande dessinée. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon. Il se trouve qu'ensuite, elle est restée en Géorgie, où elle a donc des racines, des attaches familiales, etc., et des souvenirs. Et puis elle y est restée comme un peu un des représentants du camp qui est favorable à l'entrée de la Géorgie dans l'OTAN. Alors reportons-nous à une période antérieure où toutes les républiques qui quittaient l'URSS avaient vocation, au moins vu depuis Washington et depuis Bruxelles, à rentrer dans l'OTAN. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite après la révolution des roses qui a porté M. Saakachvili au pouvoir. Ça c'est toujours pas fait, mais au fond, elle est là parce qu'elle va défendre à nouveau la possibilité de l'OTAN d'intégrer la Géorgie dans ce dispositif de l'OTAN. Alors rien n'est acquis de ce point de vue-là. D'abord parce qu'étant présidente de la République, elle est présidente dans une constitution qui ne donne pas beaucoup de pouvoir au président de la République. Bon, elle est chef des armées, c'est vrai, mais par ailleurs, c'est une république parlementaire, donc elle n'est pas Premier ministre, elle n'a pas la majorité au Parlement, donc elle n'aura peut-être pas beaucoup de pouvoir, si ce n'est un pouvoir d'influence. Je note, dernier point sur Mme Salomé Zourabichvili, que ça nous renvoie à la situation française. Dans le printemps 2017, un certain nombre d'ambassadeurs en titre, elle a encore ce titre dans la République française, ont signé une pétition en faveur de M. Emmanuel Macron. Ce qui est assez rare, des très hauts fonctionnaires qui, au moment d'une campagne présidentielle, signent pour un des deux candidats, ça ne s'est pas beaucoup vu dans l'histoire de la République. Et dans les 80 ambassadeurs, j'ai relu la liste récemment, qui ont signé pour voter Macron, il y a Mme Zourabichvili. Donc on pense qu'elle a un ami à l'Élysée qui saura se souvenir qu'elle a été du bon côté à ce moment-là, comme un certain nombre d'autres. On verra ce que ça va donner. Alors pour l'instant, d'ailleurs, l'élection a eu lieu au premier tour. Alors les deux candidats, alors l'autre candidat est aussi assez cocasse, puisque c'est un candidat donc, qui était soviétique de naissance, d'ailleurs en URSS, qui a été aussi nationalisé géorgien, et qui est devenu donc candidat à la présidence de la République, puisqu'il faut être géorgien pour être candidat. Donc on a eu un premier tour où les deux candidats, celui d'origine soviétique et celle d'origine française, étaient à égalité. Et ben, au deuxième tour, il s'est passé, alors pas un miracle, mais 500 000 voix de plus venues d'on ne sait où pour Mme Zourabichvili, qui l'amène à 60%, alors qu'elle était à 30 et quelques au premier tour, au point que le candidat battu est en train d'organiser des manifestations de protestation en disant aux voleurs, parce que, alors on ne pense pas que ce soit aux voleurs, mais la Géorgie est un pays encore relativement pauvre, assez corrompu, au-dessus de la moyenne probablement, et donc il y a probablement eu l'achat de certaines centaines de milliers de voix dans une population pauvre qui a amené ce score extraordinairement surprenant pour Mme Zourabichvili. On en reparlera à l'occasion. Mais là, l'affaire n'est pas close. Dernière chose sur laquelle je voulais intervenir, c'était pour vous rappeler qu'un ancien président des États-Unis est mort la semaine dernière. Il s'agit du papa Bush. Alors, Papa Bush, alors, comme on pouvait s'y attendre, la grande presse des États-Unis et toute l'élite des États-Unis a dit beaucoup de bien de cet homme élégant, distingué, etc. Bon, alors il faut un peu revenir quand même sur le personnage. Le personnage commence une carrière électorale, il est représentant, il est élu républicain donc au Congrès, et puis il commence à grimper dans l'appareil d'État. Il va être donc dirigeant de la CIA. Il va être vice-président sous Reagan, et puis il va devenir président donc en 98. Alors, parmi ces hauts faits militaires, il y a d'une part, quand il est vice-président sous Reagan, il fait partie des organisateurs de ce qu'on appelle l'Iran-Contra. Je rappelle en quelques mots, on se rappelle qu'on est dans les années 80, l'Irak a été envoyé au casse-pipe pour attaquer l'Iran, puisque c'est l'Iran de Khomeini, et les États-Unis ont décidé donc de faire tomber le régime des ayatollahs, et ils ont envoyé Saddam Hussein, qui a trouvé ça une très très bonne idée, moyennant finances, moyennant toute une série d'avantages. Et à un moment donné, il apparaît que Saddam Hussein, le maraudant, va gagner la guerre. Or, c'est absolument pas ce qu'il faut qu'il passe. Il faut qu'il épuise l'Iran, mais il faut surtout pas qu'il gagne la guerre, parce que s'il gagne la guerre, on entre dans des conflits pour plusieurs centaines d'années à suivre. Donc, il faut trouver un moyen, alors que l'Iran est sous embargo, que c'est le régime à abattre, c'est l'affreux Khomeini, etc. Il faut trouver un moyen de fournir des armes à l'Iran contre l'Irak qu'on a soutenu, enfin que les États-Unis ont soutenu, pour que l'Iran ne perde pas la guerre. Et on va trouver une astuce, c'est-à-dire qu'on va lui vendre des armes en contrebande. C'est-à-dire que, bien entendu, il faut que ça passe par des circuits officieux, puisque officiellement, il y a un embargo sur les ventes d'armes. Et donc, M. Bush, père, est un des organisateurs de cette opération de brigandage international. D'un côté, affichage, il y a embargo contre l'Iran. De l'autre côté, on leur fournit des armes parce qu'on ne veut absolument pas qu'ils soient battus par Saddam Hussein et par les troupes irakiennes. Ça va marcher. Et puis les intermédiaires, alors il y a une suite à ça, les intermédiaires de cette opération, donc une opération de contrebande, de banditisme, ceux qui dans les coulisses ont fait passer les armes, les ont transportées, etc., vont recevoir beaucoup d'argent, parce que le travail sale mérite beaucoup d'argent, surtout venant de puissances qui en ont beaucoup. Et donc cet argent sale va être utilisé pour casser la révolution du Nicaragua. qui est le gros souci des États-Unis, parce qu'on a au Nicaragua le régime sandiniste, qui est un régime qui veut prendre son indépendance par rapport à la toute-puissance des États-Unis chez eux. Et donc, vous voyez, une double opération, ça c'est du Bush pur. Hein. Donc d'un côté contrebandier, d'autre côté financement de contre-révolutionnaires, et donc là, les contrats nicaraguayens vont faire d'énormes casses, c'est-à-dire ils mettront le feu à des institutions, ils détruiront des hôpitaux, des infirmeries, etc. Ils casseront la révolution sandiniste. Pas complètement, mais c'est ça. Bon, ça, c'est du Bush tout pur. Et puis, je regarde l'heure, je vais finir sur quand même son chef-d'œuvre. Alors, il y a deux chefs-d'œuvre. Le premier chef-d'œuvre, c'est l'opération Panama. Alors, à Panama, il y a un qui n'est pas le chef d'État, mais qui est le monsieur tout-puissant, qui s'appelle Manuel Noriega. Manuel Noriega, c'est un agent de la CIA, on a trouvé ses feuilles de paye, etc., il n'y a pas de souci, qui est en même temps en charge du contrôle du trafic de la drogue colombienne en direction des États-Unis. Alors ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire, vous le savez, la drogue, le commerce de drogue est contrôlé par un certain nombre de chefs, des capos, comme on dit, mais au fait, la CIA laisse passer certains trafiquants et pas d'autres, c'est-à-dire elle choisit ceux qu'elle fait vivre et qu'elle laisse prospérer, en moyennant l'échange d'une commission. C'est-à-dire que Escobar peut envoyer sa cocaïne aux États-Unis à condition de payer les agents de la CIA au passage. Et donc la CIA se fait une caisse noire avec ce type d'activité, parce que la CIA, qui est un organe officiel du gouvernement des États-Unis, a un budget voté par le Congrès. Mais ça ne lui suffit pas, parce qu'elle est très 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 gourmande à la quantité d'intérêts, puis elle veut avoir de l'argent noir pour faire des choses que le Congrès ne saura pas, avec de l'argent que le Congrès ignore, au moins théoriquement. Et donc M. Noriega est là, à Panama. Alors regardez sur la carte, Panama, ça bloque la sortie, donc la frontière nord de la Colombie, et toute la drogue qui quitte la Colombie va passer quelque part, à pied, à cheval, en voiture, sur des mules, enfin tout ça, par le territoire de Panama. Et que fait M. Noriega ? Ben, il contrôle, c'est-à-dire qu'il laisse passer la drogue de Pierre, Paul ou Jacques, il ne laisse pas passer celle de l'autre qui n'est pas en odeur de sainteté, enfin, il surveille et il encaisse, il prend les commissions qui vont aller à la CIA puisqu'il est salarié de la CIA. C'est ça un président de Panama, bon, c'est un peu le risque, le métier de ces petits pays de l'Amérique centrale. Et à un moment donné, M. Noriega, qui est quand même du pays, il est là, il a des sympathies pour les sandinistes, ses voisins, le Nicaragua c'est juste à côté. Et il essaye de leur donner un coup de main. Alors ça fait partie des personnages comme ça, un peu d'aventure qui existent. Les États-Unis l'apprennent. Comment ? Alors c'est un de nos salariés qui favorise un de nos ennemis. Alors pas complètement, mais il laisse passer, il leur fait certaines facilités, il leur fait passer des armes, etc. Et donc là on dit, hein, monsieur Bougie, ça suffit, monsieur Noriega, ça suffit. Et donc, il faut aller attraper... Alors, M. Noriega ne veut pas démissionner, il a des pressions et tout. Il faut aller attraper M. Noriega. Et on lance, en décembre, donc, 98, les États-Unis, donc Bush, le président, lance une opération pour attraper M. Noriega. M. Noriega, il ne veut pas se laisser attraper, il a bien compris. Puis il est de la famille, il est à la CIA, donc il sait comment tout ça fonctionne et tout. Et donc, pour l'attraper, il faut carrément envoyer le gros, les Marines, l'aviation, les hélicoptères et tout. Et il faut tuer, c'est rien, c'est un enlèvement qui a fait 4000 morts dans la population panaméenne, qui est toute petite. Alors, ça a été très très difficile, parce qu'en plus, M. Noriega est allé se réfugier dans l'ambassade du Vatican. Et donc, les locaux diplomatiques étant inviolables, comment le faire sortir de l'ambassade du Vatican ? Alors là, les États-Unis vont utiliser une technique qu'ils connaissent maintenant, qu'ils ont déjà utilisée ailleurs, qui est la saturation sonore. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un dans un bâtiment comme ça que vous voulez attraper et vous voulez le faire sortir, vous mettez des haut-parleurs tellement puissants que de toute façon, au bout de 24 heures, quand on est au-delà de 150 décibels, le type va devenir fou. Il aura la tête qui va éclater. Et donc, à ce moment-là, il va sortir les mains en l'air, c'est terminé. Et donc, M. Noriega est sorti et il finit ses jours en prison aux États-Unis. Bon, il n'a pas été maltraité, mais il est en prison. Donc, c'est ça que fait Bush. Et la dernière chose qui fait Bush, j'ai encore deux minutes pour les... C'est l'opération sur l'Irak. La première guerre d'Irak, c'est Papa Bush. Alors, comment il fait Papa Bush ? Alors, on rappelle, on est en 90, la guerre entre l'Iran et l'Irak est terminée. Elle a épuisé, c'était le but de cette guerre, suscitée par les États-Unis et équilibrée par les États-Unis, c'est ce que je vous ai raconté sur l'Iran-Contra. La guerre se termine, les deux adversaires sont exsangues, ils n'ont plus d'argent, ils ont laissé beaucoup de monde sur le terrain, surtout les Iraniens. Et à ce moment-là, Saddam Hussein découvre que son petit voisin, le Koweït, est en train de pomper le pétrole sur son territoire. Alors on a une immense nappe qui est au sud de l'Irak et qui en fait est sur le territoire des deux pays. Et en fait, disons, je fais simple parce que je ne vais pas parler le langage des géologues, mais en pompant de biais, on arrive à pomper chez le voisin. Et donc, M. Saddam Hussein est fâché contre son voisin, le Koweït. Alors qu'il a besoin d'argent, il vient de faire 9 ans de guerre, même si c'est avec l'aide des États-Unis, mais il a quand même fait 9 ans de guerre, donc il y a eu des dépenses et tout. Et donc, il se plaint. Il se plaint, on est au mois de juillet 1990, il se plaint auprès de l'ambassadrice des États-Unis à Bagdad, Mme April Gaspi, et lui dit « ça va pas, hein, le Koweït est en train de me piquer mon pétrole, il faudrait arrêter ». Et Madame April Gaspi lui dit « mais écoutez, ça c'est des affaires entre régimes arabes, faites ce que vous avez à faire ». Écoutez bien, faites ce que vous avez à faire, c'est des affaires locales, ce n'est pas notre problème, etc. Elle lui dit ça. Alors ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et dès le 1er août 1990, l'armée irakienne envahit le Koweït. Ce que l'armée irakienne n'a pas vu et n'a pas compris, c'est que M. Bush, qui est président des États-Unis, avait dit à Mme Gaspi, racontez-lui une histoire, faites-lui faire l'erreur, et que pendant ce temps qu'il lui faisait dire ça à Mme Gaspi, il a mené tout ce qu'il fallait au Koweït et en Arabie saoudite, comme moyens, comme militaires, comme avions, comme tout ce qu'il faut, pour casser la figure à l'Irak et à Saddam Hussein. Et donc, quand Saddam Hussein envahit le Koweït, on lui dit maintenant, hein, tout est prêt pour te détruire. Ce qui va se faire, alors ça prendra un certain nombre de semaines et de mois, il y aura des tentatives de négociation et tout. Saddam Hussein dira même à la fin, mais ça va, je vais me retirer. On dira, non, maintenant, on te tient, on va t'avoir. Et effectivement, on va l'avoir, alors pas lui, pas Saddam Hussein. Il faut se souvenir que la première campagne, donc la campagne de Papa Bush, est une campagne dévastatrice où toute l'armée américaine, donc, qui est en poste, qui attend, qui était là prête depuis l'été 90, va détruire tout ce qu'il est possible de détruire de l'armée irakienne. Et on va voir alors, des armements très sophistiqués, enfin on va voir des centaines de milliers de personnes carbonisées au napalm et au phosphore sur ce qu'on appelait l'autoroute de la mort, donc qui l'autoroute qui relie donc le Koweït à l'Irak. Et donc quand les troupes de Saddam Hussein quittent le Koweït, elles sont carbonisées sur place. On compte 150 000 morts dans les quelques jours où dure l'opération. Ça, c'est Papa Bush. Alors, il en a peut-être trop fait, c'est-à-dire qu'on, contrairement à beaucoup de présidents des États-Unis, il n'a pas réussi à avoir un deuxième mandat. Et Clinton lui a pris la place pour la suite des opérations. Mais il était bon de rappeler donc, que ce personnage, présenté comme sympathique, etc., élégant, était un personnage qui, en plus... Je ne devrais pas le dire, en fait, je le dis parce que ça fait partie du personnage. On disait que c'était un homme de classe avec une grande famille, etc. Et il y a une jeune personne qui avait 16 ans quand elle l'a rencontré parce qu'elle avait gagné je ne sais quelle médaille, une jeune fille afro-américaine, comme on dit, à qui George Bush, père, a mis la main aux fesses quand il avait 79 ans, du haut de son fauteuil de président de la République. Alors voilà, c'est les gens élégants, classe, qui tuent des centaines de milliers d'Irakiens après leur avoir tendu un piège. Et puis, la destruction de l'Irak a continué, et son fils a achevé le travail. Voilà ce qu'il importait de dire sur ce personnage pas sympathique du tout. Je suis au bout là du temps de parole. Voilà. Donc, voilà. George Bush père n'était pas un personnage exemplaire. C'était tout à fait même le type même du président états-unien, arrogant, manipulateur, sans parole et qui tue comme il respire. Merci de votre attention. Merci Sidi. Et on se retrouve donc mardi prochain pour une édition nouvelle des Carnets de Comaguerre. Au revoir.